Elle est mille et une nuits, chapitre 11. Histoire des amours de Camaralzaman, prince de l'île des enfants de Calédan, et de Badour, princesse de la Chine. Sire, environ à 20 journées de navigation des côtes de Perse, il y a dans la vaste mer une île que l'on appelle l'île des enfants de Calédan. Cette île est divisée en plusieurs grandes provinces, toutes considérables par des villes florissantes et bien peuplées, qui forment un royaume très puissant. Autrefois, elle était gouvernée par un roi nommé Charzaman, qui avait 4 femmes en mariage légitime, toutes 4 filles de roi et 60 concubines. Charzaman s'estimait le monarque le plus heureux de la terre par la tranquillité et la prospérité de son règne. Une seule chose troublait son bonheur, c'est qu'il était déjà avancé en âge et qu'il n'avait point d'enfants, quoiqu'il eût un si grand nombre de femmes. Il ne savait à quoi attribuer cette stérilité, et, dans son affliction, il regardait comme le plus grand malheur qui pût lui arriver de mourir sans laisser après lui un successeur de son sang. Il dissimula longtemps le chagrin cuisant qui le tourmentait, et il souffrait d'autant plus qu'il se faisait violence pour ne pas paraître qu'il en eût. Il rompit enfin le silence, et un jour, après qu'il se fût plaint amèrement de sa disgrâce à son grand vizir, à qui il en parla en particulier, il lui demanda s'il ne savait pas quelque moyen d'y remédier. « Si ce que votre majesté me demande, répondit ce sage ministre, dépendait des règles ordinaires de la sagesse humaine, elle aurait bientôt la satisfaction qu'elle souhaite si ardemment. Mais j'avoue que mon expérience et mes connaissances sont au-dessous de ce qu'elle me propose. Il n'y a que Dieu seul à qui l'on puisse recourir dans ces sortes de besoins. Au milieu de nos prospérités, qui font souvent que nous l'oublions, il se plaît à nous mortifier par quelque endroit, afin que nous songions à lui, que nous reconnaissions sa toute-puissance, et que nous lui demandions ce que nous ne devons attendre que de lui. Vous avez des sujets qui font une profession particulière de l'honorer, de le servir, et de vivre durement pour l'amour de lui. Mon avis serait que votre majesté leur fit des aumônes, et les exhortât à joindre leurs prières aux vôtres. Peut-être que dans le grand nombre, il s'en trouvera quelqu'un assez pur et assez agréable à Dieu, pour obtenir qu'il exauce vos vœux. » Le roi Charzaman approuva fort ce conseil dont il remercia le grand vizir. Il fit porter de riches aumônes dans chaque communauté de ces gens consacrés à Dieu. Il fit même venir les supérieurs. Et après qu'il les eut régalés d'un festin frugal, il leur déclara son intention et les pria d'en avertir les dévots qui étaient sous leur obéissance. Charzaman obtint du ciel ce qu'il désirait. Et cela parut bientôt par la grossesse d'une de ses femmes qui lui donna un fils au bout de 9 mois. En action de grâce, il envoya aux communautés des musulmans dévots de nouvelles aumônes dignes de sa grandeur et de sa puissance. Et l'on célébra la naissance du prince, non seulement dans sa capitale, mais même dans toute l'étendue de ses états, par des réjouissances publiques d'une semaine entière. On lui porta le prince dès qu'il fut né, et il lui trouva tant de beauté qui lui donna le nom de Camaralzaman, lune du siècle. Le prince Camaralzaman fut élevé avec tous les soins imaginables, et dès qu'il fut en âge, le sultan Charzaman, son père, lui donna un sage gouverneur et d'habiles précepteurs. Ces personnages, distingués par leurs capacités, trouvèrent en lui un esprit aisé, docile et capable de recevoir toutes les instructions qu'ils voulurent lui donner, tant pour les règlements de ses mœurs que pour les connaissances qu'un prince comme lui devait avoir. Dans un âge plus avancé, il apprit de même tous ses exercices, et il s'en acquittait avec grâce et avec une adresse merveilleuse dont il charmait tout le monde, et particulièrement le sultan son père. Quand le prince eut atteint l'âge de 15 ans, le sultan qui l'aimait avec tendresse et qui lui en donnait tous les jours de nouvelles marques, conçut le dessein de lui en donner la plus éclatante, de descendre du trône, et de l'y établir lui-même. Il en parla à son grand vizir. « Je crains, lui dit-il, que mon fils ne perde dans l'oisiveté de la jeunesse, non seulement tous les avantages dont la nature l'a comblé, mais même ceux qu'il a acquis avec tant de succès par la bonne éducation que j'ai tâché de lui donner. Comme je suis désormais dans un âge à songer à la retraite, je suis presque résolu à lui abandonner le gouvernement et à passer le reste de mes jours avec la satisfaction de le voir régner. Il y a longtemps que je travaille. » Et j'ai besoin de repos. » Le grand vizir ne voulut pas représenter au sultan toute la raison qui aurait pu le dissuader d'exécuter sa résolution. Il entra au contraire dans son sentiment. « Sire, répondit-il, le prince est encore bien jeune, ce me semble, pour le charger de si bonne heure d'un fardeau aussi pesant que celui de gouverner un état puissant. Votre majesté craint qu'il ne se corrompe dans l'oisiveté, avec beaucoup de raison. Mais pour y remédier, ne jugera-t-elle pas plus à propos de le marier auparavant ? Le mariage attache et empêche qu'un jeune prince ne se dissipe. Avec cela, votre majesté lui donnerait entrée dans ses conseils, où il apprendrait peu à peu à soutenir dignement l'éclat et le poids de votre couronne, dont vous seriez à temps de vous dépouiller en sa faveur lorsque vous l'en jugeriez capable par votre propre expérience. » Schahzaman trouva le conseil de son premier ministre fort raisonnable. Aussi fit-il appeler le prince Kamaralzaman dès qu'il l'eut congédié. Le prince, qui jusqu'alors avait toujours vu le sultan son père à de certaines heures réglées, sans avoir besoin d'être appelé, fut un peu surpris de cet ordre. Au lieu de se présenter devant lui avec la liberté qui lui était ordinaire, il le salua avec un grand respect et s'arrêta en sa présence les yeux baissés. Le sultan s'aperçut de la contrainte du prince. « Mon fils, lui dit-il d'un air à le rassurer, savez-vous à quel sujet je vous ai fait appeler ?»« Sire, répondit le prince avec modestie, il n'y a que Dieu qui pénètre jusque dans les cœurs. Je l'apprendrai de votre majesté avec plaisir. » « Je l'ai fait pour vous dire, reprit le sultan, que je veux vous marier, que vous ensemble. » Le prince Kamaralzaman entendit ces paroles avec un grand déplaisir. Elles le déconcertèrent. La sueur lui en montait même au visage, et il ne savait que répondre. Après quelques moments de silence, il répondit. « Sire, je vous supplie de me pardonner si je parais interdit à la déclaration que votre majesté me fait. Je ne m'y attendais pas dans la grande jeunesse où je suis. Je ne sais même si je pourrais jamais me résoudre au lien du mariage, non seulement à cause de l'embarras que donnent les femmes, comme je le comprends fort bien, mais même, après ce que j'ai lu dans nos auteurs, de leur fourberie, de leur méchanceté, de leur perfidie. Peut-être ne serai-je pas toujours dans ce sentiment. Je sens bien néanmoins qu'il me faut du temps avant de me déterminer à ce que votre majesté exige de moi. » Scheherazade voulut poursuivre, mais elle vit que le sultan des Indes, qui s'était aperçu que le jour paraissait, sortait du lit, et cela fit qu'elle cessa de parler. Elle reprit le même conte la nuit suivante et lui dit. 212e nuit. Sire, la réponse du prince Kamaralzaman affligea extrêmement le sultan son père. Ce monarque eut une véritable douleur de voir en lui une si grande répugnance pour le mariage. Il ne voulut pas néanmoins la traiter de désobéissance, ni user du pouvoir paternel. Il se contenta de lui dire « Je ne veux pas vous contraindre là-dessus. Je vous donne le temps d'y penser et de considérer qu'un prince comme vous, destiné à gouverner un grand royaume, doit penser d'abord à se donner un successeur. En vous donnant cette satisfaction, vous me la donnerez à moi-même, qui suis bien aise de me voir revivre en vous et dans les enfants qui doivent sortir de vous. » Schahzaman n'en dit pas davantage au prince Kamaralzaman, et lui donna d'ailleurs tous les sujets d'être content qu'il pouvait désirer. Au bout d'un an, il le prit en particulier. « Eh bien, mon fils, lui dit-il, vous êtes-vous souvenu de faire réflexion sur le dessein que j'avais de vous marier dès l'année passée ? Refuserez-vous encore de me donner la joie que j'attends de votre obéissance ? Et voulez-vous me laisser mourir sans me donner cette satisfaction ?» Le prince parut moins déconcerté que la première fois, et il n'hésita pas longtemps à répondre en ces termes, avec fermeté. « Sire, dit-il, je n'ai pas manqué d'y penser avec l'attention que je devais. Mais après y avoir pensé mûrement, je me suis confirmé davantage dans la résolution de vivre sans m'engager dans le mariage. En effet, les maux infinis que les femmes ont causés de tout temps dans l'univers, comme je l'ai appris pleinement dans nos histoires, et ce que j'entends dire chaque jour de leur malice, sont des motifs qui me persuadent de n'avoir de ma vie aucune liaison avec elle. Ainsi, votre majesté me pardonnera si j'ose lui représenter qu'il est inutile qu'elle me parle davantage de me marier. » Il en demeura là et quitta le sultan son père brusquement, sans attendre qu'il lui dît autre chose. Tout autre monarque que le roi Schahzaman aurait eu de la peine à ne pas s'emporter, après la hardiesse avec laquelle le prince son fils venait de lui parler, et à ne pas l'en faire repentir. Mais il le chérissait, et il voulait employer toutes les voies de douceur avant de le contraindre. Il communiqua à son premier ministre le nouveau sujet de chagrin que Kamaralzaman venait de lui donner. « J'ai suivi votre conseil, lui dit-il. Mais Kamaralzaman est plus éloigné de se marier qu'il ne l'était la première fois que je lui en parlais. Et il s'en est expliqué en des termes si hardis que j'ai eu besoin de ma raison et de toute ma modération pour ne me pas mettre en colère contre lui. Les pères qui demandent des enfants avec autant d'ardeur que j'ai demandé celui-ci sont autant d'insensés qui cherchent à se priver eux-mêmes du repos dont il ne tient qu'à eux de jouir tranquillement. Dites-moi, je vous prie, par quels moyens je dois ramener un esprit si rebelle à mes volontés. Sire, reprit le grand vizir, on vient à bout d'une infinité d'affaires avec la patience. Peut-être que celle-ci n'est pas d'une nature à y réussir par cette voie. Mais votre majesté n'aura point à se reprocher d'avoir usé d'une trop grande précipitation si elle juge à propos de donner une autre année au prince pour se consulter lui-même. Si dans cet intervalle il rentre dans son devoir, elle en aura une satisfaction d'autant plus grande qu'elle n'aura employé que la bonté paternelle pour lui obliger. Si au contraire, il persiste dans son opiniâtreté, alors, quand l'année sera expirée, il me semble que votre majesté aura lieu de lui déclarer en plein conseil qu'il est du bien de l'État qu'il se marie. Il n'est pas croyable qu'il vous manque de respect à la face d'une compagnie célèbre que vous honorez de votre présence. Le sultan, qui désirait si passionnément de voir le prince son fils marié, que les moments d'un si long délai lui paraissaient des années, eut bien de la peine à se résoudre à attendre si longtemps. Il se rendit néanmoins aux raisons de son grand vizir qu'il ne pouvait désapprouver. Le jour qui avait déjà commencé à paraître imposa silence à Scheherazade en cet endroit. Elle reprit la suite du conte la nuit suivante et dit au sultan Shahriar. 213e nuit. Sire, après que le grand vizir se fut retiré, le sultan Shahzaman alla à l'appartement de la mère du prince Kamaralzaman, à qui il y avait longtemps qu'il avait témoigné l'ardent désir qu'il avait de le marier. Quand il lui eut raconté avec douleur de quelle manière il venait de le refuser une seconde fois, et marqué l'indulgence qu'il voulait bien avoir encore pour lui par le conseil de son grand vizir, « Madame, lui dit-il, je sais qu'il a plus confiance en vous qu'en moi, que vous lui parlez et qu'il vous écoute plus familièrement. Je vous prie de prendre le temps de lui en parler sérieusement et de lui faire bien comprendre que s'il persiste dans son opiniâtreté, il me contraindra à la fin d'en venir à des extrémités dont je serai très fâchée et qui le ferait repentir lui-même de m'avoir désobéi. » Fatima, c'était ainsi que s'appelait la mère de Kamaralzaman, marqua au prince son fils, la première fois qu'elle le vit, qu'elle était informée du nouveau refus de se marier qu'il avait fait au sultan son père, et combien elle était fâchée qu'il lui eût donné un si grand sujet de colère. « Madame, reprit Kamaralzaman, je vous supplie de ne pas renouveler ma douleur sur cette affaire. Je craindrais trop, dans le dépit où j'en suis, qu'il ne m'échappât quelque chose contre le respect que je vous dois. » Fatima connut par cette réponse que la plaie était trop récente et ne lui en parla pas davantage pour cette fois. Longtemps après, Fatima crut avoir trouvé l'occasion de lui parler sur le même sujet avec plus d'espérance d'être écoutée. « Mon fils, dit-elle, je vous prie, si cela ne vous fait pas de peine, de me dire quelles sont donc les raisons qui vous donnent une si grande aversion pour le mariage. Si vous n'en avez pas d'autre que celle de la malice et de la méchanceté des femmes, elle ne peut être plus faible ni moins raisonnable. Je ne veux pas prendre la défense des méchantes femmes. Il y en a un très grand nombre, j'en suis très persuadée. Mais c'est une injustice des plus criantes de les taxer toutes de l'être. Eh, mon fils, vous arrêtez-vous à quelques-unes dont parlent vos livres qui ont causé à la vérité de grands désordres et que je ne veux pas excuser. Mais que ne faites-vous attention à tant de monarques, à tant de sultans et à tant d'autres princes particuliers dont les tyrannies, les barbaries et les cruautés font horreur à lire dans les histoires que j'ai lues comme vous. Pour une femme, vous trouverez mille de ces tyrans et de ces barbares. Et les femmes honnêtes et sages, mon fils, qui ont le malheur d'être mariées à ces furieux, croyez-vous qu'elles soient fort heureuses ?« Madame, reprit Kamaralzaman, je ne doute pas qu'il n'y ait un grand nombre de femmes sages, vertueuses, bonnes, douces et de bonne mœur. Plût à Dieu qu'elles vous ressemblassent toutes. Ce qui me révolte, c'est le choix douteux qu'un homme est obligé de faire pour se marier, ou plutôt qu'on ne lui laisse pas souvent la liberté de faire à sa volonté. Supposons que je me sois résolue à m'engager dans le mariage, comme le sultan mon père le souhaite, avec tant d'impatience. Quelle femme me donnera-t-il? Une princesse, apparemment, qu'il demandera à quelque prince de ses voisins qui se fera un grand honneur de la lui envoyer. Belle ou laide, il faudra la prendre. Je veux qu'aucune autre princesse ne lui soit comparable en beauté. Qui peut assurer qu'elle aura l'esprit bien fait, qu'elle sera traitable, complaisante, accueillante, prévenante, obligeante, que son entretien ne sera que de choses solides, et non pas d'habillement, d'ajustement, d'ornement et de mille autres badineries qui doivent faire pitié à tout homme de bon sens. En un mot, qu'elle ne sera pas fière, hautaine, fâcheuse, méprisante, et qu'elle n'épuisera pas tout un état par ses dépenses frivoles en habits, en pierreries, en bijoux, en magnificence folle et malentendue. Comme vous le voyez, madame, voilà sur un seul article une infinité d'endroits par où je dois me dégoûter entièrement du mariage. Que cette princesse enfin soit si parfaite et si accomplie, qu'elle soit irréprochable sur chacun de tous ces points, j'ai un grand nombre de raisons encore plus fortes pour ne pas désister de mon sentiment, non plus que de ma résolution. « Quoi, mon fils ?» repartit Fatima. « Vous avez d'autres raisons après celles que vous venez de me dire ?» Je prétendais cependant vous répondre et vous fermer la bouche en un mot. « Cela ne doit pas vous en empêcher, madame, » répliqua le prince. « J'aurai peut-être de quoi répliquer à votre réponse. » « Je voulais dire, mon fils, dit alors Fatima, qu'il est aisé à un prince, quand il a eu le malheur d'avoir épousé une princesse telle que vous venez de la dépeindre, de la laisser, et de donner de bons ordres pour empêcher qu'elle ne ruine l'état. « Eh, madame, reprit le prince Kamaralzaman, ne voyez-vous pas quelle mortification terrible c'est à un prince d'être contraint d'en venir à cette extrémité? Ne vaut-il pas beaucoup mieux pour sa gloire et pour son repos qu'il ne s'y expose pas ?»« Mais mon fils, dit encore Fatima, de la manière que vous l'entendez, je comprends que vous voulez être le dernier des rois de votre race qui ont régné si glorieusement dans les îles des enfants de Khaledan. « Madame, répondit le prince Kamaralzaman, je ne souhaite pas de survivre au roi mon père. Quand je mourrais avant lui, il n'y aurait pas lieu de s'en étonner, après tant d'exemples d'enfants qui meurent avant leur père. Mais il est toujours glorieux, à une race de rois, de finir par un prince aussi digne de l'être comme je tâcherais de me rendre tel que ses prédécesseurs et que celui par où elle a commencé. » Depuis ce temps-là, Fatima eut très souvent de semblables entretiens avec le prince Kamaralzaman. Et il n'y a pas de biais par où elle n'ait tâché de déraciner son aversion. Mais il éluda toutes les raisons qu'elle put lui apporter, par d'autres raisons auxquelles elle ne savait que répondre, et il demeura inébranlable. L'année s'écoula, et au grand regret du sultan Schahzaman, le prince Kamaralzaman ne donna pas la moindre marque d'avoir changé de sentiment. Un jour de conseil solennel, enfin, que le premier vizir, les autres vizirs, les principaux officiers de la couronne et les généraux d'armée étaient assemblés, le sultan prit la parole et dit au prince « Mon fils, il y a longtemps que je vous ai marqué la passion avec laquelle je désirais de vous voir marié, et j'attendais de vous plus de complaisance pour un père qui ne vous demandait rien que de raisonnable. Après une si longue résistance de votre part, qui a poussé ma patience à bout, je vous marque la même chose en présence de mon conseil. Ce n'est plus simplement pour obliger un père que vous ne devriez pas avoir refusé. C'est que le bien de mes états l'exige, et que tous ces seigneurs le demandent avec moi. Déclarez-vous, donc, afin que selon votre réponse, je prenne les mesures que je dois. » Le prince Kamaralzaman répondit avec si peu de retenue, ou plutôt avec tant d'emportement, que le sultan, justement irrité de la confusion qu'un fils lui donnait en plein conseil, s'écria « Quoi, fils dénaturé, vous avez l'insolence de parler ainsi à votre père et à votre sultan ?» Il le fit arrêter par les huissiers et conduire à une tour ancienne, mais abandonnée depuis longtemps, où il fut enfermé, avec un lit, peu d'autres meubles, quelques livres et un seul esclave pour le servir. Kamaralzaman, content d'avoir la liberté de s'entretenir avec ses livres, regarda sa prison avec assez d'indifférence. Sur le soir, il se leva, il fit sa prière, et après avoir lu quelques chapitres de l'Alcoran, avec la même tranquillité que s'il eût été dans son appartement au palais du sultan son père, il se coucha sans éteindre la lampe qu'il laissa près de son lit et s'endormit. Dans cette tour, il y avait un puits qui servait de retraite pendant le jour à une fée nommée Maïmoun, fille de Damariat, roi ou chef d'une légion de génies. Il était environ minuit lorsque Maïmoun s'élança légèrement au haut du puits pour aller par le monde, selon sa coutume, où la curiosité la porterait. Elle fut fort étonnée de voir de la lumière dans la chambre du prince Kamaralzaman. Elle y entra, et sans s'arrêter à l'esclave qui était couché à la porte, elle s'approcha du lit dont la magnificence l'attira, et elle fut plus surprise qu'auparavant de voir que quelqu'un y était couché. Le prince Kamaralzaman avait le visage à demi caché sous la couverture. Maïmoun la leva un peu, et elle vit le plus beau jeune homme qu'elle eût jamais vu en aucun endroit de la terre habitable qu'elle avait souvent parcouru. « Quel éclat ! » dit-elle en elle-même. Ou plutôt, quel prodige de beauté ne doit-ce pas être lorsque les yeux que cachent des paupières si bien formées sont ouverts? Quel sujet peut-il avoir donné pour être traité d'une manière si indigne du haut rang dont il est? Car elle avait déjà appris de ses nouvelles et elle se doutait de l'affaire. Maïmoune ne pouvait se lasser d'admirer le prince Camaralzaman. Mais enfin, après l'avoir baisé sur chaque joue et au milieu du front sans l'éveiller, elle remit la couverture comme elle était auparavant et prit son vol dans l'air. Comme elle se fut élevée bien haut vers la moyenne région, elle fut frappée d'un bruit d'ailes qui l'obligea de voler du même côté. En approchant, elle connut que c'était un génie qui faisait ce bruit, mais un génie de ceux qui sont rebelles à Dieu, car pour Maïmoune, elle était de ceux que le grand Salomon contraignit de reconnaître depuis ce temps-là. Le génie, qui se nommait Danhash et qui était fils de Shamhourash, reconnut aussi Maïmoune, mais avec une grande frayeur. En effet, il connaissait qu'elle avait une grande supériorité sur lui par sa soumission à Dieu. Il aurait bien voulu éviter sa rencontre, mais il se trouva si près d'elle qu'il fallait se battre ou céder. Danhash prévint Maïmoune. « Brave Maïmoune, lui dit-il d'un ton suppliant, jurez-moi par le grand nom de Dieu que vous ne me ferez pas de mal, et je vous promets de mon côté de ne vous en pas faire. »« Maudit génie, reprit Maïmoune, quel mal peux-tu me faire? Je ne te crains pas. Je veux bien t'accorder cette grâce, mais je te fais le serment que tu me demandes. Dis-moi présentement d'où tu viens, ce que tu as vu, ce que tu as fait cette nuit. »« Belle dame, répondit Danhash, vous me rencontrez à propos pour entendre quelque chose de merveilleux. » La sultane Scheherazade fut obligée de ne pas poursuivre son discours plus avant à cause de la clarté du jour qui se faisait voir. Elle cessa de parler et la nuit suivante, elle continua en ces termes. 214e nuit. Sire, dit-elle, Danhash, le génie rebelle à Dieu, poursuivit et dit à Maïmoune. Puisque vous le souhaitez, je vous dirai que je viens des extrémités de la Chine, où elle regarde les dernières îles de cet hémisphère. Mais, charmante Maïmoune, dit ici Danhash, qui tremblait de peur à la présence de cette fée et qui avait de la peine à parler, vous me promettez au moins de me pardonner et de me laisser aller librement quand j'aurai satisfait à vos demandes. Poursuis, poursuis, maudit, reprit Maïmoune, et ne crains rien. Crois-tu que je sois une perfide comme toi et que je sois capable de manquer au grand serment que j'ai fait? Prends bien garde seulement de ne me rien dire qui ne soit vrai. Autrement, je te couperai les ailes et je te traiterai comme tu le mérites. » Danhash, un peu rassuré par ces paroles de Maïmoune, « Ma chère dame, reprit-il, je ne vous dirai rien que de très vrai. Ayez seulement la bonté de m'écouter. Le pays de la Chine d'où je viens est un des plus grands et des plus puissants royaumes de la terre d'où dépendent les dernières îles de cet hémisphère dont je vous ai déjà parlé. Le roi d'aujourd'hui s'appelle Gaïour, et ce roi a une unique fille, la plus belle qu'on ait jamais vue dans l'univers depuis que le monde est monde. Ni vous, ni moi, ni les génies de votre parti, ni du mien, ni tous les hommes ensemble, nous n'avons pas de termes propres, d'expressions assez vives ou d'éloquence suffisantes pour en faire un portrait qui approche de ce qu'elle est en effet. Elle a les cheveux d'un brun et d'une si grande longueur qu'ils lui descendent beaucoup plus bas que les pieds. Et ils sont en si grande abondance qu'ils ne ressemblent pas mal à une de ces belles grappes de raisin dont les grains sont d'une grosseur extraordinaire lorsqu'elle les a accommodées en boucle sur sa tête. Au-dessous de ses cheveux, elle a le front aussi uni que le miroir le mieux poli et d'une forme admirable. Les yeux noirs à fleur de tête, brillants et pleins de feu, le nez ni trop long ni trop court, la bouche petite et vermeille. Les dents sont comme deux fils de perles qui surpassent les plus belles en blancheur. Et quand elle remue la langue pour parler, elle rend une voix douce et agréable, et elle s'exprime par des paroles qui marquent la vivacité de son esprit. Le plus bel albâtre n'est pas plus blanc que sa gorge. De cette faible ébauche enfin, vous jugerez aisément qu'il n'y a pas de beauté au monde plus parfaite. Qui ne connaîtrait pas bien le roi, père de cette princesse, jugerait aux marques de tendresse paternelle qu'il lui a données qu'il en est amoureux. Jamais amant n'a fait pour la maîtresse la plus chérie ce qu'on lui a vu faire pour elle. En effet, la jalousie la plus violente n'a jamais fait imaginer ce que le soin de la rendre inaccessible à tout autre qu'à celui qui doit l'épouser lui a fait inventer et exécuter. Afin qu'elle n'eût pas à s'ennuyer dans la retraite qu'il avait résolu qu'elle gardât, il lui a fait bâtir 7 palais à quoi on n'a jamais rien vu ni entendu de pareil. Le premier palais est de cristal de roche, le second de bronze, le troisième de fil acier, le quatrième d'une autre sorte de bronze plus précieux que le premier et que l'acier, le cinquième de pierre de touche, le sixième d'argent et le septième d'or massif. Il les ameublait d'une somptuosité inouïe, chacun d'une manière proportionnée à la manière dont ils sont bâtis. Il n'a pas oublié dans les jardins qui les accompagnent les parterres de gazon ou émaillés de fleurs, les pièces d'eau, les jets d'eau, les canaux, les cascades, les bosquets plantés d'arbres à perte de vue, où le soleil ne pénètre jamais, le tout d'une ordonnance différente en chaque jardin. Le roi Gaillour, enfin, a fait voir que l'amour paternel seul lui a fait faire une dépense presque immense. Sur la renommée de la beauté incomparable de la princesse, les rois voisins les plus puissants envoyèrent d'abord la demander en mariage par des ambassades solennelles. Le roi de la Chine les reçut toutes avec le même accueil. Mais comme il ne voulait marier les princesses que de son consentement, et que la princesse n'agréait aucun des partis qu'on lui proposait, si les ambassadeurs se retiraient peu satisfaits quant au sujet de leur ambassade, ils partaient au moins très contents des civilités et des honneurs qu'ils avaient reçus. « Sire, disait la princesse au roi de la Chine, vous voulez me marier, et vous croyez par là me faire un grand plaisir. J'en suis persuadée, et je vous en suis très obligée. Mais où pourrais-je trouver ailleurs que près de votre majesté des palais si superbes et des jardins si délicieux? J'ajoute que sous votre bon plaisir, je ne suis contrainte en rien, et qu'on me rend les mêmes honneurs qu'à votre propre personne. Ce sont des avantages que je ne trouverais en aucun endroit du monde, à quelque époux que je voulusse me donner. Les maris veulent toujours être les maîtres, et je ne suis pas d'humeur à me laisser commander. » Après plusieurs ambassades, il en arriva une de la part d'un roi plus riche et plus puissant que tous ceux qui s'étaient présentés. Le roi de la Chine en parla à la princesse sa fille et lui exagéra combien il lui serait avantageux de l'accepter pour époux. La princesse le supplia de vouloir l'en dispenser et lui apporta les mêmes raisons qu'auparavant. Il la pressa, mais au lieu de se rendre, la princesse perdit le respect qu'elle devait au roi son père. « Sire, lui dit-elle en colère, ne me parlez plus de ce mariage, ni d'aucun autre, sinon je m'enfoncerai le poignard dans le sein et me délivrerai de vos importunités. » Le roi de la Chine, extrêmement indigné contre la princesse, lui repartit. « Ma fille, vous êtes folle, et je vous traiterai en folle. » En effet, il la fit renfermer dans un seul appartement d'un de ses palais, et ne lui donna que 10 vieilles femmes pour lui tenir compagnie et la servir, dont la principale était sa nourrice. Ensuite, afin que les rois voisins qui lui avaient envoyé des ambassades ne songeassent plus à elle, il leur dépêcha des envoyés pour leur annoncer l'éloignement où elle était pour le mariage. Et comme il ne douta pas qu'elle ne fût véritablement folle, il chargea les mêmes envoyés de faire savoir dans chaque cour que s'il y avait quelque médecin assez habile pour la guérir, il n'avait qu'à venir et qu'il la lui donnerait comme femme en récompense. « Belle Maïmoune, poursuivit Danhash, les choses sont dans cet état, et je ne manque pas d'aller régulièrement chaque jour contempler cette beauté incomparable à qui je serais bien fâchée d'avoir fait le moindre mal. Nonobstant, ma malice naturelle. Venez la voir, je vous en conjure. Elle en vaut la peine. Quand vous aurez connu par vous-même que je ne suis pas un menteur, je suis persuadée que vous m'aurez quelque obligation de vous avoir fait voir une princesse qui n'a pas d'égal en beauté. Je suis prête à vous servir de guide. Vous n'avez qu'à commander. » Au lieu de répondre à Danhash, Maïmoune fit de grands éclats de rire qui durèrent longtemps. Et Danhash, qui ne savait à quoi on attribuait la cause, demeura dans un grand étonnement. Quand elle eut bien ri à plusieurs reprises, « Bon, bon, lui dit-elle, tu veux m'en faire accroire. Je croyais que tu allais me parler de quelque chose de surprenant et d'extraordinaire, et tu me parles d'une chasseuse. Eh, fi, que dirais-tu donc, maudit, si tu avais vu comme moi le beau prince que je viens de voir en ce moment et que j'aime autant qu'il le mérite? Vraiment, c'est bien autre chose. Tu en deviendrais fou. » « Agréable, Maïmoune, reprit Danhash. Oserais-je vous demander qui peut être le prince dont vous me parlez ?» « Sache, lui dit Maïmoune, qu'il lui est arrivé à peu près la même chose qu'à la princesse dont tu viens de m'entretenir. Le roi son père voulait le marier à toute force. Après de longues et de grandes importunités, il a déclaré franc et net qu'il n'en ferait rien. C'est la cause pourquoi, à l'heure que je te parle, il est en prison dans une vieille tour où je fais ma demeure et où je viens de l'admirer. Je ne veux pas absolument vous contredire, repartit Danhash, mais ma belle dame, vous me permettrez bien, jusqu'à ce que j'aie vu votre prince, de croire qu'aucun mortel, ni mortelle, n'approche pas de la beauté de ma princesse. Tais-toi, maudit, répliqua Maïmoune. Je te dis encore une fois que cela ne peut pas être. Je ne veux pas m'opiniâtrer contre vous, ajouta Danhash. Le moyen de vous convaincre, si je dis vrai ou faux, c'est d'accepter la proposition que je vous ai faite de venir voir ma princesse, et de me montrer ensuite votre prince. Il n'est pas besoin que je prenne cette peine, reprit encore Maïmoune. Il y a un autre moyen de nous satisfaire l'un et l'autre. C'est d'apporter ta princesse et de la mettre à côté de mon prince sur son lit. De la sorte, il sera aisé, à moi et à toi, de les comparer ensemble et de vider notre procès. Danhash consentit à ce que la fée souhaitait, et il voulait retourner à la Chine sur le champ. Maïmoune l'arrêta. « Attends, lui dit-elle, viens que je te montre auparavant la tour où tu dois apporter la princesse. » Ils volèrent ensemble jusqu'à la tour, et quand Maïmoune lui montrait Danhash, « Va prendre ta princesse, lui dit-elle, et fais vite, tu me trouveras ici. Mais écoute, j'entends au moins que tu me paieras une gageure si mon prince se trouve plus beau que ta princesse, et je veux bien aussi t'en payer une si ta princesse est plus belle. » Le jour qui se faisait voir assez clairement obligea Scheherazade de cesser de parler. Elle reprit la suite la nuit suivante et dit au sultan des Indes. 215e nuit. Sire, Danhash s'éloigna de la fée, se rendit à la Chine et revint avec une diligence incroyable chargée de la belle princesse endormie. Maïmoune la reçut et l'introduisit dans la chambre du prince Kamaralzaman, où ils la posèrent ensemble sur le lit, à côté de lui. Quand le prince et la princesse furent ainsi à côté l'un de l'autre, il y eut une grande contestation sur la préférence de leur beauté entre le génie et la fée. Ils furent quelque temps à les admirer et à les comparer ensemble, sans parler. Danhash rompit le silence. « Vous le voyez, dit-il à Maïmoune, et je vous l'avais bien dit que ma princesse était plus belle que votre prince. En doutez-vous présentement ?»« Comment si j'en doute ?» reprit Maïmoune. « Oui, vraiment, j'en doute. Il faut que tu sois aveugle pour ne pas voir que mon prince l'emporte de beaucoup au-dessus de ta princesse. Ta princesse est belle, je ne le désavoue pas. Mais ne te presse pas et compare les biens l'un avec l'autre sans prévention. Tu verras que la chose est comme je le dis. » « Quand je mettrai plus de temps à les comparer davantage, » reprit Danhash, « je n'en penserai pas autrement que ce que j'en pense. J'ai vu ce que je vois du premier coup d'œil et le temps ne me ferait pas voir autre chose que ce que je vois. Cela n'empêchera pas néanmoins, charmante Maïmoune, que je ne vous cède, si vous le souhaitez. » « Cela ne sera pas ainsi, » reprit Maïmoune. « Je ne veux pas qu'un maudit génie comme toi me fasse de grâce. Je remets la chose à un arbitre. Et si tu y consens, je prends gain de cause sur ton refus. » Danhash, qui était prête à avoir toute autre complaisance pour Maïmoune, n'eut pas plutôt donné son consentement que Maïmoune frappa la terre de son pied. La terre s'entr'ouvrit, et aussitôt, il en sortit un génie hideux, bossu, borgne et boiteux, avec 6 cornes à la tête et les mains et les pieds crochus. Dès qu'il fut dehors, que la terre se fut rejointe et qu'il eut aperçu Maïmoune, il se jeta à ses pieds et, en demeurant un genou en terre, il lui demanda ce qu'elle souhaitait de son très humble service. « Levez-vous, Cache-Cache, lui dit-elle. » C'était le nom du génie. « Je vous fais venir ici pour être juge d'une dispute que j'ai avec ce maudit Danhash. Jetez les yeux sur ce lit et dites-nous sans partialité qui vous paraît le plus beau du jeune homme ou de la jeune dame. » Cache-Cache regarda le prince et la princesse avec des marques d'une surprise et d'une admiration extraordinaire. Après qu'il les eut bien considérés sans pouvoir se déterminer. « Madame, dit-il à Maïmoune, « je vous avoue que je vous tromperais et que je me trahirais moi-même si je vous disais que je trouve l'un plus beau que l'autre. Plus je les examine, et plus il me semble que chacun possède au souverain degré la beauté qu'ils ont en partage, autant que je m'y puis connaître, et l'un n'a pas le moindre défaut par où l'on puisse dire qu'il cède à l'autre. Si l'un ou l'autre en a quelqu'un, il n'y a, selon mon avis, qu'un moyen pour en être éclairci, c'est de les éveiller l'un après l'autre et que vous conveniez que celui qui témoignera plus d'amour par son ardeur, par son empressement, et même par son emportement pour l'autre, aura moins de beauté en quelque chose. » Le conseil de Cache-Cache plut agréablement à Maïmoune et à Danhash. Maïmoune se changea en puce et sauta au cou de Kamaralzaman. Elle le piqua si vivement qu'il s'éveilla et y porta la main. Mais il ne prit rien. Maïmoune avait été prompte à faire un saut en arrière et à reprendre sa forme ordinaire, invisible néanmoins comme les deux génies, pour être témoin de ce qu'il allait faire. En retirant la main, le prince la laissa tomber sur celle de la princesse de la Chine. Il ouvrit les yeux et il fut dans la dernière surprise de voir une dame couchée près de lui et une dame d'une si grande beauté. Il leva la tête et s'appuya du coude pour la mieux considérer. La grande jeunesse de la princesse et sa beauté incomparable l'embrasèrent en un instant d'un feu auquel il n'avait pas encore été sensible et dont il s'était gardé jusqu'alors avec tant d'aversion. L'amour s'empara de son cœur de la manière la plus vive et il ne put s'empêcher de s'écrier « Quelle beauté! Quel charme! Mon cœur, mon âme !» Et en disant ces paroles, il la baisa au front, aux deux joues et à la bouche avec si peu de précaution qu'elle se fût éveillée si elle n'eût pas dormi plus fort qu'à l'ordinaire par l'enchantement de Danhasch. « Quoi, ma belle dame ?» dit le prince. « Vous ne vous éveillez pas à ces marques d'amour du prince Camaralzaman ? Qui que vous soyez, il n'est pas indigne du vôtre. » Il allait l'éveiller tout de bon, mais il se retint tout à coup. « Ne serait-ce pas, dit-il en lui-même, celle que le sultan mon père voulait me donner en mariage ? Il a eu grand tort de ne me pas la faire voir plus tôt. Je ne l'aurais pas offensé par ma désobéissance et par mon emportement si public contre lui, et il se fût épargné à lui-même la confusion que je lui ai donnée. » Le prince Camaralzaman se repentit sincèrement de la faute qu'il avait commise, et il fut encore sur le point d'éveiller la princesse de la Chine. « Peut-être aussi, dit-il en se reprenant, que le sultan mon père veut me surprendre. Sans doute qu'il a envoyé cette jeune dame pour éprouver si j'ai véritablement autant d'aversion pour le mariage que je lui en ai fait paraître. Qui sait s'il ne l'a pas amenée lui-même, et s'il n'est pas caché pour se faire voir et me faire honte de ma dissimulation ? Cette seconde faute serait de beaucoup plus grande que la première. À tout événement, je me contenterai de cette bague pour me souvenir d'elle. » C'était une fort belle bague que la princesse avait au doigt. Il la tira adroitement et mit la sienne à sa place. Aussitôt, il lui tourna le dos et il ne fut pas longtemps à dormir d'un sommeil aussi profond qu'auparavant par l'enchantement des génies. Dès que le prince Camaralzaman fut bien endormi, Danhasch se transforma en puce à son tour et alla mordre la princesse au bas de la lèvre. Elle s'éveilla en sursaut et se mit sur son séant. Et en ouvrant les yeux, elle fut fort étonnée de se voir coucher avec un homme. De l'étonnement, elle passa à l'admiration, et de l'admiration à un épanchement de joie qu'elle fit paraître dès qu'elle eut vu que c'était un jeune homme si bien fait et si aimable. « Quoi ? » s'écria-t-elle. « Est-ce vous que le roi mon père m'avait destiné pour époux ? Je suis bien malheureuse de ne l'avoir pas su. Je ne l'aurais pas mise en colère contre moi, et je n'aurais pas été si longtemps privée d'un mari que je ne puis m'empêcher d'aimer de tout mon cœur. Éveillez-vous, éveillez-vous ! Il ne sied pas à un mari de t'endormir la première nuit de ses noces. » En disant ces paroles, la princesse prit le prince Camaralzaman par le bras et l'agita si fort qu'il se fut éveillé, si dans le moment, Maïmoune dut augmenter son sommeil en augmentant son enchantement. Elle l'agita de même à plusieurs reprises, et comme elle vit qu'il ne s'éveillait pas. « Et quoi » reprit-elle, « que vous est-il arrivé ? Quelque rival jaloux de votre bonheur et du mien aurait eu le recours à la magie, et vous aurait-il jeté dans cet assoupissement insurmontable lorsque vous devez être plus éveillé que jamais ?» Elle lui prit la main en la baisant tendrement, et elle s'aperçut de la bague qu'il avait au doigt. Elle la trouva si semblable à la sienne qu'elle fut convaincue que c'était elle-même quand elle eut vu qu'elle en avait une autre. Elle ne comprit pas comment cet échange s'était fait, mais elle ne douta pas que ce ne fût la marque certaine de leur mariage. Lassée de la peine inutile qu'elle avait prise pour l'éveiller, et assurée, comme elle le pensait, qu'il ne lui échapperait pas, « Puisque je ne puis venir à bout de vous éveiller, dit-elle, je ne m'opiniâtre pas davantage à interrompre votre sommeil. À nous revoir. » Après lui avoir donné un baiser à la joue en prononçant ces dernières paroles, elle se recoucha et mit très peu de temps à se rendormir. Quand Maïmoune vit qu'elle pouvait parler sans craindre que la princesse de la Chine se réveillât, « Eh bien, maudit » dit-elle à Danhasch, « as-tu vu ? Es-tu convaincu que ta princesse est moins belle que mon prince ? Va, je veux bien te faire grâce de la gageure que tu me dois. Une autre fois, crois-moi, quand je t'aurai assuré quelque chose. » En se tournant du côté de Cache-Cache, « Pour vous, ajouta-t-elle, je vous remercie. Prenez la princesse avec Danhasch et remportez-la ensemble dans son lit, où il vous mènera. » Danhasch et Cache-Cache exécutèrent l'ordre de Maïmoune, et Maïmoune se retira dans son puits. Le jour qui commençait à paraître imposa silence à la sultane Scheherazade. Le sultan des Indes se leva, et la nuit suivante, la sultane continua de lui raconter le même conte en ces termes. 216e nuit. Sire, dit-elle, le prince Kamaralzaman, en s'éveillant le lendemain matin, regarda à côté de lui si la dame qu'il avait vue la même nuit y était encore. Quand il vit qu'elle n'y était plus, « Je l'avais bien pensé, dit-il en lui-même, que c'était une surprise que le roi mon père voulait me faire. Je me sais bon gré de m'en être gardé. » Il éveilla l'esclave qui dormait encore, et le pressa de venir l'habiller sans lui parler de rien. L'esclave lui apporta le bassin et l'eau. Il se leva, et après avoir fait sa prière, il prit un livre et lut quelque temps. Après ses exercices ordinaires, Kamaralzaman appela l'esclave. « Viens ça, lui dit-il, et ne mens pas. Dis-moi comment est venue la dame qui a couché cette nuit avec moi, et qui l'a amenée ?»« Le prince, répondit l'esclave avec un grand étonnement. De quelle dame entendez-vous parler ?»« De celle, te dis-je, reprit le prince, qui est venue ou qu'on a amenée ici cette nuit, et qui a couché avec moi. » « Prince, repartit l'esclave, je vous jure que je n'en sais rien. Par où cette dame serait-elle venue, puisque je couche à la porte ?»« Tu es un menteur, maraud, répliqua le prince, et tu es d'intelligence pour m'affliger davantage et me faire enrager. » En disant ces mots, il lui appliqua un soufflet dont il le jeta par terre. Et après l'avoir foulé longtemps sous les pieds, il le lia au-dessous des épaules avec la corde du puits, le descendit dedans et le plongea plusieurs fois dans l'eau par-dessus la tête. « Je te noierai, s'écria-t-il, si tu ne me dis promptement qui est la dame et qui l'a amenée. » L'esclave, furieusement embarrassé, moitié dans l'eau, moitié dehors, dit en lui-même. « Sans doute que le prince a perdu l'esprit de douleur, et je ne puis échapper que par un mensonge. « Prince, dit-il d'un ton de suppliant, donnez-moi la vie, je vous en conjure. Je promets de vous dire la chose comme elle est. » Le prince retira l'esclave et le pressa de parler. Dès qu'il fut hors du puits, « Prince, dit l'esclave en tremblant, vous voyez bien que je ne puis vous satisfaire dans l'état où je suis. Donnez-moi le temps d'aller changer d'habit auparavant. »« Je te l'accorde, reprit le prince, mais fais vite et prends bien garde de ne pas me cacher la vérité. » L'esclave sortit, et après avoir fermé la porte sur le prince, il courut au palais dans l'état où il était. Le roi s'y entretenait avec son premier vizir et se plaignait à lui de la mauvaise nuit qu'il avait passée au sujet de la désobéissance et de l'emportement si criminel du prince son fils en s'opposant à sa volonté. Ce ministre tâchait de le consoler et de lui faire comprendre que le prince lui-même lui avait donné lieu de le réduire. « Sire, lui disait-il, votre majesté ne doit pas se repentir de l'avoir fait arrêter. Pourvu qu'elle ait la patience de le laisser quelque temps dans sa prison, elle doit se persuader qu'il abandonnera cette fougue de jeunesse et qu'enfin il se soumettra à tout ce qu'elle exigera de lui. » Le grand vizir achevait ses derniers mots lorsque l'esclave se présenta au roi Schahzaman. « Sire, lui dit-il, je suis bien fâché de venir annoncer à votre majesté une nouvelle qu'elle ne peut écouter qu'avec un grand déplaisir. Ce qu'il dit d'une dame qui a couché cette nuit avec lui et l'état où il m'a mis, comme votre majesté le peut voir, ne font que trop connaître qu'il n'est plus dans son bon sens. » Il fit ensuite le détail de tout ce que le prince Kamaralzaman avait dit et de la manière dont il l'avait traité, en des termes qui donnèrent créance à son discours. Le roi, qui ne s'attendait pas à ce nouveau sujet d'affliction. « Voici, dit-il à son premier ministre, un incident des plus fâcheux, bien différent de l'espérance que vous me donniez tout à l'heure. Allez, ne perdez pas de temps, voyez vous-même ce que c'est et venez m'en informer. » Le grand vizir obéit sur le champ, et en entrant dans la chambre du prince, il le trouva assis et fort tranquille, avec un livre à la main qu'il lisait. Il le salua, et après qu'il se fût assis près de lui, « Je veux un grand mal à votre esclave, lui dit-il, d'être venu effrayer le roi votre père par la nouvelle qu'il vient de lui apporter. »« Quelle est cette nouvelle ? Reprit le prince, qui peut lui avoir donné tant de frayeur ? J'ai un sujet bien plus grand de me plaindre de mon esclave. »« Prince, repartit le vizir, à Dieu ne plaise que ce qu'il a rapporté de vous soit véritable. Le bon état où je vous vois et où je prie Dieu qu'il vous conserve me fait connaître qu'il n'en est rien. »« Peut-être, répliqua le prince, qu'il ne s'est pas bien fait entendre. » « Puisque vous êtes venu, je suis bien aise de demander à une personne comme vous, qui devez en savoir quelque chose, où est la dame qui a couché cette nuit avec moi ?» Le grand vizir demeura comme hors de lui-même à cette demande. « Prince, répondit-il, ne soyez pas surpris de l'étonnement que je vais paraître sur ce que vous me demandez. Serait-il possible, je ne dis pas qu'une dame, mais qu'aucun homme au monde eût pénétré de nuit jusqu'en ce lieu où l'on ne peut entrer que par la porte et qu'en marchant sur le ventre de votre esclave. De grâce, rappelez votre mémoire, et vous trouverez que vous avez eu un songe qui vous a laissé cette forte impression. « Je ne m'arrête pas à votre discours, » reprit le prince d'un ton plus haut. « Je veux savoir absolument qu'est devenue cette dame, et je suis ici dans un lieu où je saurais me faire obéir. » À ces paroles fermes, le grand vizir fut dans un embarras qu'on ne peut exprimer, et il songea au moyen de s'en tirer le mieux qu'il lui serait possible. Il prit le prince par la douceur, et lui demanda dans des termes les plus humbles et les plus ménagés si lui-même il avait vu cette dame. « Oui, oui, » repartit le prince, « je l'ai vue, et je me suis fort bien aperçu que vous l'avez apostée pour me tenter. Elle a fort bien joué le rôle que vous lui avez prescrit, de ne pas dire un mot, de faire la dormeuse et de se retirer dès que je serais endormie. Vous le savez sans doute, elle n'aura pas manqué de vous en faire le récit. « Prince, » répliqua le grand vizir, « je vous jure qu'il n'est rien de tout ce que je viens d'entendre de votre bouche, et que le roi, votre père et moi, nous ne vous avons pas envoyé la dame dont vous parlez. Nous n'en avons même pas eu la pensée. Permettez-moi de vous dire encore une fois que vous n'avez vu cette dame qu'en songe. Vous venez donc pour vous moquer aussi de moi, répliqua encore le prince en colère, et pour me dire en face que ce que je vous dis est un songe. Il le prit aussitôt par la barbe et le chargea de coups aussi longtemps que ses forces le lui permirent. Le pauvre grand vizir essuya patiemment toute la colère du prince Kamaralzaman par respect. « Me voilà, dit-il en lui-même, dans le même cas que l'esclave. Trop heureux si je puis échapper, comme lui, d'un si grand danger. » Au milieu des coups dont le prince le chargeait encore, « Prince, s'écria-t-il, je vous supplie de me donner un moment d'audience. » Le prince, las de frapper, le laissa parler. « Je vous avoue, prince, dit alors le grand vizir en dissimulant, qu'il est quelque chose de ce que vous croyez. Mais vous n'ignorez pas la nécessité où est un ministre d'exécuter les ordres du roi son maître. Si vous avez la bonté de me le permettre, je suis prête à aller lui dire de votre part ce que vous m'ordonnerez. « Je vous le permets, lui dit le prince. Allez, et dites-lui que je veux épouser la dame qu'il m'a envoyée ou amenée et qui a couché cette nuit avec moi. Faites promptement et apportez-moi la réponse. » Le grand vizir fit une profonde révérence en le quittant. Et il ne se crut délivré que quand il fut hors de la tour et qu'il refermait la porte sur le prince. Le grand vizir se présenta devant le roi Scharzaman avec une tristesse qui l'affligea d'abord. « Eh bien, lui demanda ce monarque, en quel état avez-vous trouvé mon fils ?»« Sire, répondit ce ministre, ce que l'esclave a rapporté à votre majesté n'est que trop vrai. » Il lui fit le récit de l'entretien qu'il avait eu avec Kamaralzaman, de l'emportement de ce prince, et qu'il lui entreprit de lui représenter qu'il n'était pas possible que la dame dont il parlait eût couché avec lui, du mauvais traitement qu'il avait reçu de lui, et de l'adresse dont il s'était servi pour échapper de ses mains. Scharzaman, d'autant plus mortifié qu'il aimait toujours le prince avec tendresse, voulut s'éclaircir de la vérité par lui-même. Il alla le voir à la tour et mena le grand vizir avec lui. Mais, sire, dit ici la sultane Scheherazade en s'interrompant, « Je m'aperçois que le jour commence à paraître. » Elle garda le silence, et la nuit suivante, en reprenant son discours, elle dit au sultan des Indes. 217e nuit. Sire, le prince Kamaralzaman reçut le roi son père dans la tour où il était en prison avec un grand respect. Le roi s'assit, et après qu'il eut fait asseoir le prince près de lui, il lui fit plusieurs demandes auxquelles il répondit d'un très bon sens. Et de temps en temps, il regardait le grand vizir comme pour lui dire qu'il ne voyait pas que le prince son fils eût perdu l'esprit, comme il l'avait assuré, et qu'il fallait qu'il l'eût perdu lui-même. Le roi, enfin, parla de la dame au prince. « Mon fils, lui dit-il, je vous prie de me dire ce que c'est que cette dame qui a couché cette nuit avec vous, à ce que l'on dit. » « Sire, répondit Kamaralzaman, je supplie votre majesté de ne pas augmenter le chagrin qu'on m'a déjà donné sur ce sujet. » Faites-moi plutôt la grâce de me la donner en mariage. Quelle aversion que je vous ai témoignée jusqu'à présent pour les femmes, cette jeune beauté m'a tellement charmée que je ne fais pas difficulté de vous avouer ma faiblesse. Je suis prête à la recevoir de votre main avec la dernière obligation. » Le roi Scharzaman demeura interdit à la réponse du prince, si éloigné, comme il lui semblait, du bon sens qu'il venait de faire paraître auparavant. « Mon fils, reprit-il, vous me tenez un discours qui me jette dans un étonnement dont je ne puis revenir. Je vous jure par la couronne qui doit passer à vous, après moi, que je ne sais pas la moindre chose de la dame dont vous me parlez. Je n'y ai aucune part s'il en est venu quelqu'une. Mais comment aurait-elle pu pénétrer dans cette tour sans mon consentement? Car quoi que vous en ait pu dire, mon grand vizir, il ne l'a fait que pour tâcher de vous apaiser. Il faut que ce soit un songe. Prenez-y garde, je vous en conjure, et rappelez vos sens. Sire, repartit le prince, je serais indigne à jamais des bontés de votre majesté si je n'ajoutais pas foi à l'assurance qu'elle me donne. Mais je la supplie de vouloir bien se donner la patience de m'écouter et de juger si ce que j'ai l'honneur de lui dire est un songe. Le prince Camaralzaman raconta alors au roi son père de quelle manière il s'était éveillé. Il lui exagéra la beauté et les charmes de la dame qu'il avait trouvée à son côté, l'amour qu'il avait conçu pour elle en un moment, et tout ce qu'il avait fait inutilement pour la réveiller. Il ne lui cacha pas même ce qu'il avait obligé de se réveiller et de se rendormir, après qu'il eut fait l'échange de sa bague avec celle de la dame. En achevant enfin, et en lui présentant la bague qu'il tira de son doigt. « Sire, ajouta-t-il, la mienne ne vous est pas inconnue, vous l'avez vue plusieurs fois. Après cela, j'espère que vous serez convaincu que je n'ai pas perdu l'esprit, comme on vous l'a fait à croire. » Le roi Charzaman connut si clairement la vérité de ce que le prince son fils venait de lui raconter qu'il n'eut rien à répliquer. Il en fut même dans un étonnement si grand qu'il demeura longtemps sans dire un mot. Le prince profita de ces moments. « Sire, lui dit-il encore, la passion que je sens pour cette charmante personne, dont je conserve la précieuse image dans mon cœur, est déjà si violente que je ne me sens pas assez de force pour y résister. Je vous supplie d'avoir compassion de moi et de me procurer le bonheur de la posséder. Après ce que je viens d'entendre, mon fils, et après ce que je vois par cette bague, reprit le roi Charzaman, je ne puis douter que votre passion ne soit réelle, et que vous n'ayez vu la dame qui l'a fait naître. Plût à Dieu que je la connusse, cette dame. Vous seriez content dès aujourd'hui, et je serais le père le plus heureux du monde. Mais où la chercher? Comment et par où est-elle entrée ici, sans que j'en ai rien su et sans mon consentement? Pourquoi y est-elle entrée seulement pour dormir avec vous et pour vous faire voir sa beauté, vous enflammer d'amour pendant qu'elle dormait et disparaître pendant que vous dormiez? Je ne comprends rien dans cette aventure, mon fils. Et si le ciel nous est favorable, elle nous mettra au tombeau, vous et moi. » En achevant ces paroles et en prenant le prince par la main. « Venez, ajouta-t-il, allons nous affliger ensemble. Vous, d'aimer sans espérance, et moi, de vous voir affligé et de ne pouvoir remédier à votre mal. » Le roi Charzaman tira le prince hors de la tour et l'emmena au palais où le prince, au désespoir d'aimer de toute son âme une dame inconnue, se mit d'abord au lit. Le roi s'enferma et pleura plusieurs jours avec lui sans vouloir prendre aucune connaissance des affaires de son royaume. Son premier ministre, qui était le seul à qui il avait laissé l'entrée libre, vint un jour lui représenter que toute sa cour, et même les peuples, commençaient à murmurer de ne le pas voir, et de ce qu'il ne rendait plus la justice chaque jour à son ordinaire, et qu'il ne répondait pas du désordre qui pouvait arriver. « Je supplie votre majesté, poursuivit-il, d'y faire attention. Je suis persuadé que sa présence soulage la douleur du prince, et que la présence du prince soulage la vôtre mutuellement. Mais elle doit songer à ne pas laisser tout périr. » Elle voudra bien que je lui propose de se transporter avec le prince au château de la petite île, peu éloignée du port, et de donner audience deux fois la semaine seulement. Pendant que cette fonction l'obligera de s'éloigner du prince, la beauté charmante du lieu, le bel air et la vue merveilleuse dont on y jouit feront que le prince supportera votre absence, de peu de durée, avec plus de patience. Le roi Charzaman approuva ce conseil, et dès que le château, où il n'était allé depuis longtemps, fut meublé, et il y passa avec le prince, où il ne le quittait que pour donner les deux audiences précisément. Il passait le reste du temps au chevet de son lit, et tantôt il tâchait de lui donner de la consolation, tantôt il s'affligeait avec lui.